Bonjour à tous. Peut-être avez-vous vu le film « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois. En tout cas, nous avons vu ce film pour vous. Un pays, l'Algérie, un lieu, un monastère. Un choix, partir ou rester au risque de la mort. Tout d'abord, Sarah et Daline vous présenteront le film, avant que Laurine, Aline et Noémie nous apportent leur regard critique. Et enfin, ne ratez pas l'entretien exclusif que nous avons eu avec la famille de Célestin, l'un des moines de cette histoire.
Nous sommes dans le monastère de Tibirine, en Algérie, où vivent 8 moines français. Dans le film, s'alternent des moments de vie simples. Moments de prière, soins des habitants, vie au village et travaux au jardin. Des actions terroristes se déroulent près du village. Des travailleurs étrangers sont assassinés. Le jour de Noël, le GIA demande aux moines à ce que l'un des leurs soit soigné. Les moines acceptent. Alors les moines doutent. Des réunions pour discuter se profilent. Avec la montée du terrorisme, faut-il partir ou rester ? Au fur et à mesure, la réponse s'impose d'elle-même.
L'Algérie a eu son indépendance en 1962, à la fin de la guerre. Ce pays a eu du mal à instaurer un régime démocratique car l'Algérie était un pays fragile dans les années 90 à cause de la montée de l'islamisme qui provoque des massacres, des enlèvements et des attentats. L'islamisme est un courant de pensée musulman qui pense que l'islam doit être instauré en politique. Le GIA est notamment la source des massacres liés à la montée de l'islamisme. Le GIA est le groupe islamique armé, qui est une organisation armée dont le but est de renverser le gouvernement algérien pour le remplacer par un État islamique. Voici quelques exemples d'actions du GIA. Le 8 mai 1994, deux religieux français sont assassinés à Alger. Le 3 août 1994, trois gendarmes français et deux agents de l'ambassade de France sont assassinés à Alger. Le 27 décembre 1994, quatre pères blancs dont trois français sont assassinés en Kabylie. Le 5 mai 1995, cinq coopérants dont deux français sont assassinés dans les locaux d'une société algérienne. Le 27 mars 1996, l'assassinat des moines de Tibrine. Pour ce massacre, la version officielle qui reste plausible est celle impliquant le GIA et Jamel Zitouni, un de ses chefs de guerre. Celui-ci aurait voulu imposer son autorité sur la région par l'enlèvement et l'assassinat des moines. Cette version se heurte cependant au fait que les corps des moines n'ont pas été retrouvés et qu'aucun rapport d'autopsie n'a été communiqué. De plus, les doutes subsistent quant à l'authenticité des deux communiqués attribués officiellement au GIA. Enfin, le communiqué annonçant l'exécution des moines parlait de mort par égorgement. Celle-ci était pratiquée couramment par le GIA. En réalité, les moines ont été décapités. Cela sans qu'on puisse établir si ces décapitations ont été la cause de la mort ou si elles ont été pratiquées après le décès des moines.
Le film raconte une histoire magnifique et dramatique et est représentatif des situations en temps de guerre. C'est un bon film avec de beaux décors et une bonne mise en scène. Les acteurs jouent très bien leur rôle et représentent bien les moines, tout comme Lambert Wilson et Michael Lonsdal. Des scènes émouvantes, touchantes et tristes sont présentes, une fin triste mais réaliste. Ce film nous fait réfléchir sur la mort et les conditions de vie, mais pour nous, il possède tout de même un point négatif, c'est le manque de dialogue. Mais il est compensé par des actions bien mouvementées qui comblent ce manque. Nous vous incitons donc à aller voir ce film ou bien même à acheter le DVD lorsqu'il sortira.
Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit par rapport à l'humanité qui ressort du film du fait de son extrême simplicité. Par contre, je voulais relever le fait qu'il y ait peu de dialogue. Elles sont alternées avec des scènes de silence qui montrent la profonde réflexion des moines et des prières et des chants que l'on peut voir pendant tout le film qui sont aussi marquantes que les scènes de parole, comme les scènes répétitives des tables rondes où les moines parlent de leur décision de rester ou de partir. Alors je vous incite moi aussi à voir ce film. Les moines ont tous fait preuve de courage, ils étaient des personnes hors du commun. Nous avons donc voulu en savoir plus sur un des moines tués en 1996. Pour cela, nous avons contacté la famille de Célestin, l'une des victimes. Nous avons donc échangé avec Michel et Yvonne, frères et belles-sœurs de Célestin.
Notre impression à nous, qui avons vécu là-bas pendant 2 fois 15 jours à Tibarine avec eux, c'était une impression vraiment de paix, de calme, de sérénité, de joie même. Vous voyez, ça peut paraître bizarre, mais on s'est vraiment retrouvés vivants à Tibarine avec eux, même si le décor n'était pas tout à fait le même, il y avait des accessoires qui nous faisaient penser au monastère. On a vraiment, pour nous, ça a vraiment été un moment émouvant, un moment, mais de paix, de sérénité. On n'avait pas de tristesse en nous parce qu'on était fiers de Célestin, on était surtout fiers de tous les moines. On a vraiment revécu ce moment.
Repas, travail,
prière.
Prière, on les a fait vivre à 2 fois 15 jours. Vraiment, on a connu leur vie et vécu avec eux, quoi. On avait cette impression pendant le film
d'être avec eux.
Revivre tout cela avec eux.
Peut-être qu'en le voyant une deuxième fois, on va le revoir à la fin de la semaine, là. Une deuxième fois, on aura peut-être d'autres impressions, mais là, la première cuvée, comme on dit, la première fois qu'on l'a vue, c'était vraiment ça. Hein. Les petits enfants qui étaient avec nous ont pleuré, mais ils connaissent, enfin, ils n'ont pas connu les mêmes choses que nous à Tibarine.
Pouvez-vous nous raconter ce qu'a fait Célestin avant d'aller en Algérie au monastère?
Il a été en 61, il a été ordonné prêtre. Donc, il était prêtre dans le diocèse de Nantes, de 61 à 82, 83, il a été prêtre à Nantes, dans une paroisse du nord de Nantes. Une paroisse qu'on appelait chez nous, c'était le chêne des Anglais, c'est une paroisse très ouvrière et très pauvre. Et dans ce milieu, il a rencontré beaucoup de gens qui buvaient, qui avaient des problèmes d'alcool. Il s'est occupé beaucoup, il les a beaucoup assistés, leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, il s'est beaucoup occupé d'eux pour essayer de les sortir de leur boisson. Ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été réussi, mais il a toujours, comme il disait, si un alcoolique peut rester même 8 jours sans boire, je sais que sa femme, pendant 8 jours, elle sera heureuse. Et ça suffit, pour moi, c'est déjà une consolation. Pour prouver que c'était possible de vivre sans alcool, il a désobéi un peu à l'Église en étant le premier à boire dans le calice. Au lieu de mettre du vin, il mettait du jus de fruits pour être en vérité avec les gens. Et il a promis à cette époque-là, peut-être en 62, 63, il a promis de ne plus boire d'alcool. Il a arrêté de boire, alors qu'il aimait bien un bon verre de vin rouge, il a arrêté de prendre du vin. Jusqu'au monastère de Tibarine, dans le film, on voit que le jour de l'anniversaire de Frère Luc, il débouche une bonne bouteille. Nous, on n'a pas vu si dans son verre à Célestin, il y avait du vin blanc, de l'eau ou du vin rouge. On croit que c'est du vin rouge. Mais c'est une erreur sûrement du film, parce que Célestin n'a jamais regoutté une goutte de vin rouge de toute sa vie, de vin de toute sa vie. Et même quelquefois, ça le faisait un petit peu, pas sourire, mais rager un peu. Les moines ne pensaient pas forcément à Tibarine. Quand il débouchait une bouteille, ils ne pensaient pas forcément à lui mettre quelque chose de plus que de l'eau. Alors, il râlait un peu, il disait, eux, ils boivent du vin et ils ne pensent même pas à mettre un petit peu, mais il disait ça avec humour. Hein. Voilà. Autrement, il s'est occupé des alcooliques, hein, déjà. Après, des prostituées sur le quai de la Fosse, il a beaucoup, beaucoup travaillé avec des associations comme le Nid. Après,
il a même logé des
personnes chez lui. Après, il a découvert les drogués, donc là aussi, il s'est investi. Les homosexuels, il a beaucoup accompagné les familles d'homosexuels qui, à l'époque, avaient beaucoup de mal à accepter ça. Enfin,
de tous les malheureux.
Oui.
Et ça, c'était en plus de son monastère qu'il assurait.
En plus de son ministère.
De son ministère, oui, qu'il assurait
à la paroisse.
À la paroisse, donc, à la Boissière.
Il dormait, la paroisse de Nantes. Il dormait très peu. Hein. C'était le jour où on s'occupait de tous ces pauvres, et puis, ou le soir, et puis dans la journée, il faisait son ministère de prêtre. Un jour, pendant ses vacances en 82, dans sa prière, dans ce moment de solitude, de réflexion, il a senti que le Seigneur l'appelait, lui disait, c'est ce qu'il nous avait raconté, tu cours après les uns, après les autres, plus tu secours les gens, plus tu en trouves, plus il y en a. Tu vois bien que de toi-même, tu peux pas faire grand-chose. Alors, viens, rentre au monastère et confie-moi tout ça dans la prière. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est rentré à Bellefontaine, fin 82, début 83, il est rentré comme moine au monastère de Bellefontaine qu'il connaissait pour y avoir passé des séjours de repos, des moments de retraite et autres.
Comment se comportait-il dans la vie familiale ?
Alors, dans la vie familiale, il n'était pas très présent, hein, avec nous, hein, parce qu'il était tellement pris, mais dès qu'il avait un moment, son plus grand plaisir, on avait un jardin à Nantes à l'époque, son plus grand plaisir, c'était de venir aider son frère à tourner le jardin. Et pour lui, c'était un moment de défoulement,
de détente.
De détente, oui. Il aimait beaucoup. Il venait aux fêtes à Noël, et puis Noël, le Pâques, il essayait quand même d'être avec nous quand on avait les enfants, tout le monde à la maison, mais c'était très rare. À Noël, quand il venait toujours avec quelqu'un. Il nous disait, je veux bien aller, mais faut que vous acceptiez Morissette ou enfin quelqu'un, une fille qui était dans la peine et dans la misère. Il ne venait jamais seul.
Et est-ce que Célestin avait toujours voulu être moine ?
Oh non. Non, c'était au départ, c'était prêtre, oui. Tout petit, hein, Michel, tout petit.
Oui, c'est déjà, il voulait être prêtre.
Tout petit, il voulait être prêtre.
Son désir de partir pour être moine, c'est après s'être occupé de tous ces malheureux, tous ces pauvres, eh bien, il a ressenti l'appel du Seigneur qui lui demandait de... qu'il n'arriverait pas à fournir partout, alors plutôt de se consacrer à une vie monastique, à la prière.
Mais il a tout petit, hein, il était...
À ce moment-là qu'il a désiré...
Tout petit.
La coupure, quoi, parce qu'il s'est fait moine après 50 ans. Hein.
Il s'est fait moine à 50 ans. Hein, mais tout petit, à 6 ans déjà à l'école, le curé de la paroisse lui demandait qu'est-ce que tu veux faire. Il disait je veux être prêtre. Et le curé lui dit, bah oui, mais c'est pas prêtre peut-être, mais enfin, il faut peut-être un métier. T'as pas un métier qui te... Non, moi je veux être prêtre. Tout petit, il avait 6 ans, 7 ans, c'était déjà son désir.
On a été au séminaire tous les deux ensemble, à Levé, au séminaire.
Ils ont fait
séminaire de Levé.
Quelques années.
Ensemble.
Pourquoi a-t-il choisi d'aller particulièrement en Algérie, au monastère, en 1986 ?
Alors, il a choisi, ça c'est toute une histoire, mais enfin, il a fait son service militaire en Algérie. Et un jour... pendant la guerre d'Algérie, il était infirmier. Pendant la guerre d'Algérie, les militaires avaient eu beaucoup de pertes de soldats français. Et ils ont ramené, le soir, ils ont ramené un prisonnier, Sidi Ahmed Alouze, qui était un chef de bande. Et
Très grosse tête. Hein.
Oui, il était vraiment blessé beaucoup, assez important, il était entre la vie et la mort, et quand les soldats français l'ont ramené à l'infirmerie, ils ont dit, faut l'achever quoi, après, il y avait 3 ou 4 copains qui étaient morts, on l'achève, Célestin s'est interposé, il a dit non, cet homme nous a été envoyé pour être soigné, moi je le soigne, et je défie qui que ce soit de lui faire du mal. Et il s'est occupé de lui, il l'a soigné, il lui râpait même des pommes pour essayer de le faire manger, de lui donner quelque chose de consistant. Et il a, à partir de là, je pense qu'il a eu tout de suite cet amour de l'Algérie, cet amour des Algériens. On a beaucoup de photos où il est photographié en tant que soldat avec des enfants algériens. Il a aimé cette terre, et en 85 ou 6, il y a eu un appel de Tibarine, un appel auprès de Bellefontaine, le prieur de Tibarine a demandé s'il n'y aurait pas des volontaires pour venir grossir le nombre de moines de Tibarine. Et le même jour, Il y en a eu 4 qui se sont proposés, qui ont été trouvés le père abbé en disant moi je veux y aller. Dans ce nombre, il y avait Célestin, il y avait Michel, le frère Michel qu'on voit comme cuisinier dans le film, et Bruno qui était à Bellefontaine aussi, et qui c'est celui qui est arrivé le dernier à la fin du film, là, Bruno, celui-là. Tous les 3, ils ont demandé. Et le père abbé a accepté, ils sont pas partis tous ensemble, tous les 3 ensemble. Hein. Le père abbé a quand même a accepté de les envoyer. Et le jour où Célestin atterrit à Alger, il a eu la surprise de retrouver à l'aéroport, ce soldat qu'il avait sauvé, Sidi Ahmed Alouz, était là à l'attendre. Alors, enfin, Célestin de nous dire que ça a été vraiment un moment impressionnant de rencontre entre lui et cet homme qu'il n'avait pas vu depuis plus de 20 ans, quoi. Qui avait essayé de le rechercher en France, mais qui avait réussi presque in extremis la veille de son départ pour l'Algérie. Un de ses fils avait réussi à le retrouver à Bellefontaine.
Savez-vous ce que Célestin ressentait au moment du choix, partir ou rester?
Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire, parce que là, Célestin nous a jamais fait de confidence, à ce propos-là, parce qu'il nous ménageait, il voulait pas nous dire le danger qu'il y avait. Hein. Quand il a été après Noël 93. Après Noël 93, il est venu en France en 94 où il a subi 6 pontages. Parce que c'était un être, Célestin, un être très, très émotif, très sensible. Et il vivait dans l'angoisse après l'attentat, là, après la visite du GIA au monastère. C'est lui qui avait reçu un des GIA. Et il avait vraiment eu très, très, très peur. Alors, il a fait des crises cardiaques après, donc on était obligé d'être opéré. Alors, après, en 94, il est reparti à Tibarine. Mais ce qu'on a compris, ce qu'il nous a dit quand même à ce moment-là, c'est qu'il avait qu'une hâte, c'était de retrouver ses frères. Il avait du mal à vivre à Nantes, il voulait surtout pas rester à Nantes, il voulait repartir avec ses frères. Je crois dire la vérité, même sûr. Quoi qu'on ait à vivre, je veux le vivre avec mes frères. C'était sa phrase. Je veux vivre ce que j'ai à vivre avec mes frères.
Il avait fait le vœu de rester là-bas.
Oui. Il avait fait le vœu quand un moine fait des vœux, il fait des vœux de stabilité dans le monastère où il s'engage à rester toute sa vie dans le monastère où il a fait ses vœux. Et ils étaient, on sait bien depuis qu'ils étaient tout à fait au courant de ce qui les attendait. Ils le pressentaient, mais nous, Célestin, pour nous, ne nous a jamais dit ouvertement, je suis en danger. Mais je sais pas, connaissant Célestin, je crois, même si dans le film on l'entend dire, moi je suis malade, je veux rentrer, dans une première interrogation, je suis sûre qu'après, son désir, c'était de rester avec ses frères, suivant la majorité, suivant ce qui aura été décidé.
Et vous avez trouvé ça normal qu'il reste?
Oui, connaissant Célestin, c'était pour nous, c'était normal. C'était normal d'après ce qu'il était, d'après son être. Oui. Célestin avait donné sa vie.
C'était tellement attaché là-bas que oui. Pour lui, il... c'était sa vie, son bonheur.
Ah oui, on ne le voyait pas, il aurait déserté pour nous aussi. C'est vrai qu'on a... Il y a un frère d'un des moines qui a mis beaucoup de temps à accepter que son frère soit resté là-bas. Et maintenant qu'il a vu le film et qu'il a un peu plus le temps à passer... Ce monsieur, il comprend maintenant, il dit oui, il fallait qu'il reste. Mais pour nous, Célestin, c'était dans la suite logique de sa vie.
Hein.
Il avait toujours fait passer les autres, fait passer Dieu et les autres avant lui. On ne voyait pas comment là il allait venir se réfugier en France pour éviter la mort. Ce que les Algériens vivaient, je ne dis pas qu'ils désiraient la mort, il ne faut pas exagérer. Mais non, non.
Ils voulaient surtout rester au service et être attentifs auprès de tous ses frères.
Comme ils ressentaient que les Algériens avaient besoin d'eux, de leur présence, de leur soutien. Je pense que tous, si au début il y en a quelques-uns qui ont dit « je rentrais », je pense que ils étaient quand même tous d'accord après pour rester.
Y a-t-il eu beaucoup de documents faits sur Célestin ?
De documents, alors le seul document qui est consacré à Célestin, c'est Célestin, justement une cassette qui a été faite par Pierre Mathiotte. Bon, ce monsieur Pierre Mathiotte, il connaissait pas Célestin, mais quand il a su son histoire, il s'est dit c'est pas possible qu'une telle vie, une telle histoire reste dans l'oubli. Et il a cherché tous les gens qu'il avait connus, la famille, les copains de régiment, les copains de séminaire, les gens, bon, plusieurs personnes qu'il a guéries, qu'il a soutenues, qu'il a soignées, par son amitié et sa présence. Il a recherché tous ces gens et il les a fait témoigner dans cette cassette. Il y a des livres, mais les livres sont pour tous les sept. Hein. Ce sont les sept moines.
Eh bien, nous vous remercions beaucoup pour les réponses à toutes ces questions. Nous admirons en effet beaucoup la vie et le choix de tous ces moines, et en particulier Célestin. Merci encore.
Une toute petite chose pour nous. On a pleuré Célestin, mais pour nous qui avions vécu là-bas pendant longtemps, 2 semaines, 4 semaines avec eux, pour nous, quand Célestin est mort, on a toujours pleuré nos 7 frères. C'était pour nous, c'était pas un frère, 7.
Oui. Oh, ça nous touche beaucoup. Nous aussi, nous avons versé quelques larmes en voyant le film. C'était tellement émouvant. Et en écoutant vos réponses, ça ne peut que nous toucher.
J'espère que c'est assez. Bon, allez, bon courage.
Merci,
au revoir.
À vous aussi, au revoir.